France Musique. Les grands entretiens. Yvan Amar. France Musique.
Je m'appelle Bernard Lubin, né à Uzest, en Gironde, le 12 juillet 1945. Je suis œuvrier, artiste, musicien.
Salve-me do cap, mama samba. E samba na cura da Bahia. Samba das cun, da pires cun. Samba bastante, mas a rica prova de sac. Chante sa vie pa meia, mama. Samba la reste, coração sui a cun. Que liri ao piridrag. Chico e chante per me embarca. Mama samba. Tire-moi de la mama samba.
Bernard Lubin, bonjour. Je suis bien content d'être ici chez vous et de vous appeler Bernard Lubin. Je ne savais pas si je devais dire Lubin ou Lubat. Quand on est à Uzest, il faut faire sonner le T, vous ne le faites pas sonner.
Je fais les deux, Lubat, Lubin, ça dépend. Le matin, comme ça, c'est plutôt Lubin parce que je flémarde. mais c'est Lubat, Lubin, ça ne me dérange pas du tout.
On est donc dans cet estaminet, dans cette grande salle. Il n'y a que nous pour l'instant, mais parfois il y a du public. Et puis, dans un coin, il y a, j'allais dire un zinc, mais c'est en bois. Enfin, il y a un comptoir, on peut boire des coups. De l'autre côté, il y a pas mal d'instruments. Il y a des claviers, il y a des cymbales un peu partout, plusieurs batteries. Il y a un piano, sur la table, il y a un accordéon. Il y a des livres, il y a des micros. C'est votre salle de vie, votre salle de travail. Où est-ce qu'on est ici, Bernard ?
On est dans ma pièce principale. Non, c'est les laboratoires de la compagnie Lubin de Jascogne. C'est une compagnie transartistique de divagation. Voilà, ici, on cultive le processus de créolisation dont parle Édouard Glissant. Voilà, Édouard Glissant, qui est venu pendant de longues années ici. Et ici, on entremêle les mélomèles. La musique, les sons, le verbe, les bruits, les instruments, la voix, le théâtre, la danse, les idées, la pensée, le vide, le silence, tout ce qui est possible d'imaginer dans la liberté d'une imagination. Voilà.
Bon, vous êtes né à Uzest il y a longtemps, et je crois que vous êtes même né à l'Estaminet.
Oui, ici, là. Oui, je suis revenu où je suis né. J'ai pas de peau parce que je suis né pendant un bal.
Pourquoi vous dites que vous avez pas de peau?
Parce que j'aurais pu. Parce que ça m'a marqué, je pense, toute la vie, pour la suite, quoi. Ici, c'était un café, l'Estaminet, c'était un bal, un dancing, donc un restaurant, un hôtel, c'était un lieu public, quoi.
Qui s'appelait l'Estaminet depuis 1937, je crois.
Oui, maison fondée en 1937, mais il s'appelait l'Estaminet pendant la guerre, pendant l'occupation, parce que un réfugié belge est arrivé un peu comme ça pendant la débâcle, et il s'est installé ici. Il a dit à mon père, dis donc, il est bien ton Estaminet. Donc mon père a appelé ça café l'Estaminet. Voilà.
Et c'est ça qui donne déjà un peu d'exotisme, parce que ouais, c'est vrai ouais. Que Estaminet, c'est vraiment pas un nom du sud-ouest, c'est un nom du nord.
Oui, c'est déjà la présence de l'ailleurs. De l'autre, quoi.
Et il y a des balles à l'Estaminet depuis combien de temps?
Ben, ça a duré pendant plus de 20 ans, après la libération, jusqu'en 65, ouais, 45-65. Ici, c'était un centre culturel avant la lettre, puisque le mercredi soir, il y avait cinéma itinérant. Donc, c'était un projectionniste, cinéaste, qui faisait la tournée des villages pendant la semaine. Le jeudi, c'était réunion syndicale ou politique. Le vendredi soir, c'était concours de belote ou de billard. Et quelquefois de poker dans l'arrière-salle. Et le samedi soir, c'était bal. Le dimanche après-midi et dimanche soir, c'était bal. Le lundi et le mardi, c'était une tristesse inouïe. Il n'y avait rien. Moi, j'étais très triste. Et ça a recommencé comme ça. Et donc, l'estaminet était très connu dans la région parce que plein de jeunes gens se sont connus ici, se sont mariés ici, ont divorcé ici, enfin bref, toute l'histoire.
Et vous, vous avez grandi ici?
J'ai grandi ici, j'ai fait mes premiers tempos de batterie ici pendant des mambos, des passos, j'étais tout enfant, quoi. Et puis, donc.
Tout enfant, ça veut dire quoi? 5-6 ans?
À 5-6 ans, ils m'ont mis au boulot, quoi, les parents, tout de suite. Alors, j'ai appris un peu comme ça. Et ensuite, j'ai appris le piano avec un professeur d'un village d'à côté.
Mais avant d'en venir là, vos premiers souvenirs de vous sur scène, justement, c'est la batterie, c'est tapé?
Oui, c'est tapé, c'est le rythme. C'est le rythme, parce que pour les gens qui dansent, ils se touchent. Il faut du rythme, c'est un moyen de transport. C'est cet érotisme-là qui est en jeu, et ça continue dans la musique d'ailleurs. Le rythme, c'est le moyen de transport de la musique. Mais là, c'est le rythme de base, parce que la musique n'était pas de très haut niveau. C'était plutôt des musiques sud-américaines, parce que c'était un peu la mode par la radio. Les musiques de l'ancien monde rural, agricole, les polkas, les mazurkas, tout ça, ça avait disparu sous les effets du plan Marshall. Donc, on découvrait la samba, le mambo, la bossa nova et tout ça. Donc, c'était donc le rythme, qu'il fallait tenir le rythme. On disait ça, tenir le rythme. On disait, tu tiens la batterie. On disait pas encore, tu tiens le tempo, tu tiens le groove. Non, c'était bon. Donc, c'est important parce que ça, c'est le début du temps lent. Pas le temps long, c'est le début du temps lent. Le rythme, c'est une vie pour le laisser libre vivre en soi. J'ai appris ça avec Kenny Clarke, quoi. Quand Kenny Clarke jouait le tempo, le drive avec sa cymbale, on voyait tout de suite que c'était une question de temps lent. Il fallait vraiment une vie pour arriver à faire swinguer, quoi.
Premier souvenir de vous pendant ces bals de l'estaminet, c'est vous jouant, c'est pas vous dansant.
Au début, c'est moi jouant. Et j'adorais ça parce que ça me mettait un peu en valeur. Parce qu'à la batterie, vous avez une responsabilité, quoi. Il faut tenir l'ensemble. Et après, un peu plus tard, vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à avoir envie de danser parce que les filles. Et j'adorais ça, danser. Et puis, petit à petit, le piano aussi, puisque ouais. j'ai appris la musique classique, mais en même temps, je continuais le bal.
Et alors, vous jouiez avec qui dans ces bals? Vous étiez le petit, le minot, vous avez 5 ans, mais autour de vous, qui sont les musiciens?
Des musiciens de la région, des gens qui sont des cultivateurs, des artisans, qui aimaient beaucoup ça. Il en reste quelques-uns encore qui adorent ça, le samedi, le dimanche, d'aller faire des bals populaires comme ça, parce que je vais souvent les voir quand je suis là, parce que je vois leur espèce de joie intérieure quand ils jouent, quoi, c'est ça. Alors, bien sûr, le niveau est très bas, mais le vrai est là, quoi. Ils aiment ça, quoi. Et j'étais un peu dans ce bain, quoi, d'une espèce de jeu. C'était le début du jeu, quoi.
Est-ce que vous aviez l'impression que c'était un cas à part, Uzest, ou bien dans beaucoup de villages autour, il y avait des gens qui se réunissaient pour faire de la musique, en étant donc des musiciens amateurs, des musiciens du dimanche, puisqu'ils étaient paysans, cultivateurs le reste de la semaine.
Mais ça, avant la guerre, ça existait, ça. Ouais. Les bals populaires, à la ferme, dans le séchoir à tabac, sur la place du village. Mais l'estaminet, ça a été le premier dancing.
On appelait ça dancing. Votre père Alban, il disait, c'est un dancing.
C'est dancing parce que ça jouait du mambo, des sambas. Encore des valses musettes et des javas, mais quand même de la musique exotique. Donc, c'était un dancing. Donc, c'était à la fois mal vu par le milieu catholique dominant, et en même temps, c'était tentant, c'était vraiment tout le monde est venu s'épouser. C'est pour ça qu'il est très connu dans le coin, quand je me balade un peu dans les marchés, ici encore, j'ai des gens qui m'abordent, qui me disent « Ouais, je suis venu à l'estaminette, mais ça tient toujours l'estaminette ?» Oui, oui, c'est devenu autre chose. « Ah oui, mais j'y suis venu, j'ai dansé, j'ai connu ma femme, là, j'ai connu mon mari, là, etc. » C'était très populaire.
Les grands entretiens de Bernard Lubat.
Donc vous jouez dans les bals le samedi et le dimanche, puisque c'est bal le samedi et le dimanche, et puis vous commencez à faire de la musique. C'est votre père qui vous y a poussé à apprendre la musique quand vous étiez môme?
Oui, aussi, il m'a poussé, mais j'y ai été poussé par l'inconnu de moi, je peux dire, quoi. Quelque chose m'a poussé, quoi, c'est-à-dire ma curiosité, le jeu, quoi. Quand on est gosse, on veut jouer tout le temps. Et la musique, ça se joue. Pour jouer du piano, il faut beaucoup jouer. De l'accordéon, tous les instruments, ça se joue. C'est comme un ballon. Moi, je rêvais d'être footballeur aussi. Quand j'étais petit, je jouais sans arrêt avec un ballon. Et cette idée de jeu, quoi, voilà. En même temps, c'est la confrontation à une difficulté. Quand on se trouve devant Jean-Sébastien Bach, ou devant Mendelssohn, ou devant Chopin, tout ça, qu'on a de 8 ans, 12 ans, qu'on vient d'où je viens, comme moi, on s'est dit, oulala, mais ça existe, ça. C'est possible, mais la musique, mais c'est incroyable, mais c'est infaisable, mais c'est sublime, mais comment je vais faire, mais etc. Donc ça vous éveille à l'intérêt de vous-même, c'est ça le jeu.
Et les premiers instruments sur lesquels vous avez vraiment travaillé, c'est l'accordéon ou le piano, ou les deux en même temps?
C'est les deux en même temps, mais plutôt le piano, parce que le piano, il y avait un répertoire... musicalement très
donc il y a un piano à la maison, il y a un piano à l'estaminet.
Voilà, il y a un piano loué à Bordeaux, un piano droit qui est loué là. Et donc j'ai l'obligation de faire une heure par jour. Sans ça, avant ça, je peux pas aller jouer au foot.
Et ça, l'obligation, c'est votre père?
Ah oui, mon père, obligé. Ouais. Sorti de l'école, puisque j'ai connu que l'école communale, moi. L'école du Zest, elle est à 150 mètres de l'estaminette. J'ai passé mon certificat d'études à 14 ans, comme tout le monde ici. Et ensuite, mon père m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu choisis quoi maintenant? Le collège ou le conservatoire? Je dis, pour le conservatoire. Tout de suite, j'ai saisi la balle au bon. Parce que la musique, c'était devenu déjà une drogue douce.
Donc vous choisissez le conservatoire. Après quelques cours, vous avez eu un prof quand même.
Ah ici. Oui, beaucoup, très sérieux. Prof de piano, prof d'accordéon. Mais prof de piano, sérieux, c'est elle qui m'a préparé au concours d'entrée au conservatoire de Bordeaux, en classe supérieure, comme ça, directement. Et j'y suis rentré. Ça a été dur. Mais j'y suis arrivé quand même. Par contre, quand je suis arrivé au conservatoire à Bordeaux, j'avais donc 14 ans, 15 ans. Là, j'ai compris tout de suite que pour arriver à maîtriser tout le répertoire classique, il fallait 5, 6 heures, 8 heures par jour. Et là, ça n'a pas tenu. J'étais à Bordeaux, j'avais une bicyclette, et là, j'ai pas tenu. J'étais chez des amis, je pouvais pas faire 8 heures par jour de piano. Il fallait que j'aille au cinéma, il fallait que je découvre la vie moderne. Et puis 8 heures par jour, non, pas possible. Donc, j'ai démissionné de la classe de piano au bout de 2 ans, et je me suis inscrit à la classe d'à côté, la classe de percussion, où là j'ai rencontré Jean Courtiou, un professeur formidable qui m'a fait découvrir le jazz. Dire, il faut que tu écoutes ça, parce que tu as un sens du rythme étonnant, il me dit, il faut que tu écoutes Count Basie, ah bon, c'est quoi ça? Milt Jackson. Ah, Milt Jackson, c'est quoi ça? Ah bon. Alors il me donne l'adresse du disquaire pour aller chercher ses disques, cours de l'intendance à Bordeaux. Et j'achète les disques, et là, je tombe par terre, parce que là, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est, ce truc-là?
Thank you. premier disque de Basie, vous vous souvenez, c'était quel
oui,
disque?
Oui, la bombe atomique.
Ah, The Atomic Mr. Basie.
Il y en a eu d'autres.
Oui, ouais, mais il y a celui-là où on voit celui-là. Le champignon atomique.
Voilà, alors là, je suis tombé. Et puis Mick Jackson, alors aussi, parce qu'en classe de percussion, on jouait du vibraphone, du xylophone, des timbales, des batteries, tout ça. Mais le vibraphone, ça m'attirait quand même. Et là, alors là, j'entends la merveille des merveilles du phrasé.
Mick Jackson, qui est quand même le grand vibraphoniste du bebop, donc.
Oh, magnifique. C'est, je pense que c'est toujours un des plus, profond, je dirais, quoi.
Et alors, le premier disque de Mick Jackson que vous entendez, c'est pas encore le Modern Jazz Quartet
Non, c'était pas le Modern Jazz Quartet, c'était, je sais pas avec qui, avec Monk, je crois, ou je sais plus trop qui.
C'est du vibraphone à deux baguettes.
À deux baguettes, oui.
Ah,
oui
pas
oui.
Quatre.
Quoi. Non. Ouais. Après, c'est venu plus tard qu'on a essayé.
Qu'est-ce qui vous a plu alors chez Mick Jackson?
Le swing, la qualité des phrases, la compréhension des phrases, le découpé des phrases, un mélodisme improvisé, une qualité d'improvisation mélodique à travers les harmonies, je pense, inégalée. Hein. Il avait une retenue que j'ai jamais eue d'ailleurs, mais exemplaire.
Et c'est un de ceux qui ont fait que vous êtes devenu vibraphoniste.
Voilà, ouais.
C'est parce qu'à la classe de percussion du conservatoire de Bordeaux, percussion, qu'est-ce que c'est? C'est des timbales, c'est la caisse claire.
Oui, c'est tout. C'est les vibraphones, les xylophones, les cloches, machin. C'est plein de trucs, mais c'est plutôt pluri-instrumentiste, quoi. C'est pas vraiment vibraphone, quoi. Mmh. Vibraphone, c'était le jazz qui a amené le vibraphone à ce niveau-là de capacité musicale autonome, comme le piano, quoi, comme la batterie plus tard. Au conservatoire non plus, on n'apprend pas la batterie jazz. On apprend à jouer du tambour, de la batterie, mais cette histoire de jazz, c'est autre chose. C'est pour ça que ça n'a pas marché d'abord avec les conservatoires.
Donc vous êtes vers 13-14 ans, vous êtes à Bordeaux. Vous passez un prix au conservatoire de Bordeaux?
Oui, je suis diplombé, comme on dit, oui. je suis diplombé, je passe le prix à Bordeaux, puis après je prépare Paris. La première année, je suis...
Et il y a un concours pour entrer au conservatoire. C'était à l'époque, c'est la rue de Madrid, donc.
Oui, rue de Madrid, oui. La première année, je suis pas pris. Mais à la sortie du concours... Il y a deux membres du jury qui viennent me voir avec mon père. Me dit, vous savez, votre fils, il est mal préparé, il n'avait pas été pris, mais s'il prend avec nous des leçons particulières pendant un an, je vous assure qu'il rentrera haut la main. Donc, mon père était d'accord, je suis parti à Paris, j'avais 16 ans quand même, tout seul. Donc, j'avais deux cours par semaine, un cours de clavier et un cours de caisse claire avec des professeurs émérites qui étaient musiciens à l'Opéra de Paris. Là, j'ai travaillé pendant l'année, puis je suis rentré dans la classe de percussion.
Dire que pendant tout ce temps-là, vous n'étiez plus musicien, vous faisiez plus de balles, vous ne jouiez plus, ou bien de temps en temps vous retourniez à l'Estaminet pour jouer un peu ou...
Si, un peu, mais surtout je cherchais du boulot à Pigalle.
À Pigalle, la bourse aux musiciens, quoi.
Oui, voilà. Ouais.
Alors racontez-nous un petit peu ce que c'était.
À Pigalle, tous les mardis et tous les vendredis soirs, il y avait une réunion des musiciens, comme ça, sur la place. Il y avait souvent un mec qui faisait « Bon, je cherche un pianiste bandoneon. Ah bon ? Je cherche un batteur voiture. » Bon, voilà. Et donc, mais pour quand ? Ben, pour demain soir, c'est à Colombes. Voilà, quoi. Et petit à petit, comme j'avais une culture du bal, que je savais jouer les tangos, je savais jouer les mambos, je savais jouer les passodobles, les valses-musettes, j'ai trouvé du boulot, un peu de boulot comme ça. Et donc, en même temps que mes chères études, alors ça c'est très mal vu au conservatoire, ça se faisait pas.
Donc c'était un peu clandestin, fallait pas trop le dire.
Il fallait pas le dire, quoi. Voilà. Mais bon, je gagnais ma vie comme ça. Après, j'ai fait remplaçant aux Folies Bergères, au Moulin Rouge. J'ai joué la revue du Moulin Rouge à la batterie comme remplaçant. Enfin, moi, j'ai fait un peu tous les métiers, tout de suite, le métier qu'on appelait le métier, quoi. Et alors, je suis resté donc au conservatoire un an. J'ai eu mon prix, tout ça, en un an. Paraît-il que c'était assez courageux. Puis j'étais à Paris, dans une chambre de bonne au 7e étage, sans ascenseur. J'avais le temps de voir du pays. Puis
c'était dans quel quartier? Vous habitiez où?
Pigalle, rue Lécluse, place Clichy. Donc c'était la vie. Ça m'intéressait davantage. J'ai toujours pensé que la musique à vivre m'intéressait davantage que la musique à vendre. Mais ça, c'est depuis tout petit déjà. Ouais. Le concert que j'ai fait, c'est Jacques Di Donato qui m'a... Nous étions au conservatoire ensemble, lui était en classe de clarinette et moi j'étais en classe de percussion. Il m'a dit, tu sais, il y a un compositeur, un arrangeur, un pianiste, il s'appelle Jeff Gilson, il cherche un vibraphoniste pour monter un orchestre de jazz, tu vois. Mais c'est très compliqué, il faut lire et la musique et tout ça, et improviser. Ah, j'ai dit, bon. Alors il me présente et puis je vois une partition vraiment écrite, des arrangements très complexes. Là j'arrive à jouer ce qui est écrit et à un moment donné l'écriture s'arrête et après il y a une espèce de chiffrage, ce qu'on appelle des grilles. Et là je m'arrête de jouer et Gilson me dit, mais pourquoi t'arrêtes de jouer? Parce que là il faut improviser, il me dit. Ah, dit, ah bon, ah ben je ferai ça le jour du concert. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire, le chiffrage, improviser.
Comment vous sortez du conservatoire, mais quand vous voyez A7 bb moll mineur, vous savez pas ce que c'est?
Non, j'arrive pas à faire la relation entre... Alors après j'ai cherché au piano après un peu ce que ça voulait dire, l'harmonie, machin comme ça. Bon, Jeff Gilson m'engage quand même, il me dit il y a des concerts, tout ça. Bon, je me rappelle le premier chorus que j'ai fait improvisé au vibraphone, il a fallu que je m'aide de la voix. J'entendais les accords comme ça, qui étaient joués par le pianiste, tout ça, et alors... Je m'aidais comme ça avec des vibraphones, j'essayais de jouer ce que je chantais, j'essayais de chanter ce que je jouais, enfin tout ça donnait une espèce de potentialité de survie. Je suis arrivé au bout sans mourir. Et donc, petit à petit, j'ai affiné la métaphore. Et puis, on s'est trouvé après à jouer au festival de Juin Lépin, en première partie du quartet mythique de John Coltrane. Voilà.
Bernard Luba dans le grand orchestre de Jeff Gilson avec cette valse pour Hélène. C'était les grands entretiens de Bernard Luba. Vous pouvez retrouver toutes les références des musiques que nous avons passées sur la page de l'émission que vous pouvez réécouter sur francemusique.fr. Les grands entretiens, Gilles Blanchard, Flora Sternadel, Raymond Albouy, Cédric Chaplus, Yvan Amar et demain à nous de Paris.
À réécouter sur francemusique.fr.